VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 5 décembre 2018. Une journée de deuil ici aux États-Unis où les administrations sont fermées en hommage à l'ancien président George Bush, père, dont les funérailles se sont tenues à Washington. Les anciens présidents Obama, Carter, Clinton et Bush, fils, étaient présents, ainsi que des dignitaires étrangers dont Angela Merkel et le prince Charles. Notre envoyé spécial Abdourahmane Dia est sur place. En Afrique, un nouveau foyer d'Ebola a été signalé dans la région de Beni, dans l'est de la RDC. La justice française a autorisé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. La Minute Écho, les sports, ce sera juste après le journal.
In the long and honored history of America.
Ici, aux États-Unis, les funérailles nationales de George Bush, père, se sont tenues ce mercredi à la cathédrale de Washington en présence du président Donald Trump et de 4 anciens chefs d'État américains, George Bush fils, Barack Obama, Jimmy Carter et Bill Clinton. Plusieurs dignitaires étrangers ont pris part également aux funérailles du 41e président des États-Unis décédé vendredi au Texas à l'âge de 94 ans. On peut noter notamment la présence du prince Charles d'Angela Merkel. Le couple royal de Jordanie était également présent. Et après la cérémonie, le cercueil couvert du drapeau américain a été conduit à la base militaire d'Andrews pour être ramené au Texas en avion présidentiel. Abdourahmane Dia, vous avez suivi ces funérailles. Que peut-on retenir de la cérémonie?
Alors Nathalie, la cérémonie vient de se terminer. Le cortège funèbre devrait plutôt se diriger d'un moment à l'autre vers la base aérienne Andrews. La cérémonie était donc pleine d'émotion et de solennité, comme cela a d'ailleurs été le cas depuis l'arrivée du cercueil de George Bush à Washington lundi soir. Et à la cathédrale de Washington, l'émotion était encore plus grande avec les témoignages de certains de ses proches, mais surtout avec son fils, l'ancien président George Bush, qui a délivré l'éloge funèbre. Un discours ponctué de blagues, certes, mais c'était surtout pour rappeler un peu le sens de l'humour du défunt. Mais le président Bush, hein, qui a donc livré l'éloge funèbre, a plutôt rappelé le sens du patriotisme de son père. On l'écoute.
After high school, he put college on hold and became a Navy fighter pilot.
Après le lycée, il différa son entrée à l'université pour devenir aviateur naval alors qu'éclatait la Seconde Guerre mondiale.
Like many of his generation, he never talked about his service.
Comme beaucoup de gens de sa génération, il n'a jamais parlé de son service jusqu'à ce qu'il y soit obligé après être devenu une personnalité publique.
Abdourahmane Dia, vous avez autre chose à ajouter sur cette question?
Absolument, je voulais juste poursuivre dans cette lignée pour dire que la proximité entre le 43e président et son père est de notoriété publique. Et là encore, il nous parle de son caractère, du caractère de son père marqué par l'humanisme. On l'écoute encore.
He valued character over pedigree.
Il attachait plus d'importance au caractère d'une personne qu'à ses origines. Et il n'était pas cynique.
He looked for the good in each person.
Il cherchait le bien en chaque personne et le trouvait habituellement.
Et la dépouille du président Bush doit retourner ce soir au Texas, n'est-ce pas, Abdourahmane? Est-ce que vous pourriez nous parler de ce qui va se passer après?
Absolument. La dépouille devrait quitter, comme je le disais, d'un moment à l'autre la cathédrale, direction la base aérienne Andrews dans le Maryland pour retourner à Houston, Texas. Et ce soir, son cercueil sera à l'église épiscopale Saint-Martin dont il était un membre. Il sera inhumé demain et sera accompagné dans sa dernière demeure par sa famille et des proches de la famille. Ce sera dans la bibliothèque George Bush.
Et pour un aperçu de la place qu'a occupé Herbert Walker Bush aux États-Unis et dans le monde, Timothée Donangmaï a joint collaborateur du défunt président, l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Il est considéré comme un des grands présidents dans le domaine des affaires étrangères. C'est-à-dire, il a présidé sur la fin de l'Empire Union soviétique. Il a libéré le Koweït des mains de Saddam Hussein d'Irak et il a Il a fait beaucoup de choses avec la Chine, dans les relations avec la Chine. Donc, il a beaucoup avancé les intérêts américains dans le domaine des affaires étrangères.
Notamment en direction de l'Afrique, ambassadeur.
Oui, bien sûr, en Afrique aussi. Quand moi, j'ai été son vice-ministre pour les affaires africaines, il m'a donné des instructions de trouver un moyen de faire la paix en Éthiopie, en Angola, en Mozambique. Ce que nous avons fait. Donc, c'est lui qui a pris l'initiative de trouver des résolutions de conflits dans des pires des guerres en Afrique. Il a augmenté le budget pour l'aide aux Africains aussi. C'est lui qui a donné de l'argent pour la première fois en Afrique pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance.
Aujourd'hui, des dignitaires du monde entier lui rendent hommage ici à Washington. C'est bien la preuve qu'il a marqué la vie politique dans le monde.
Oui, c'est vrai. Il avait beaucoup d'amis dans le monde. Vous savez, il était ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Et là-dedans, il a rencontré beaucoup de gens de tous les pays, surtout des Africains. Et il a été toujours ouvert aux visites, aux communications. Il n'a jamais dit non aux communications avec n'importe qui dans le monde.
Les quatre anciens présidents américains vivants se sont joints au président Trump pour rendre hommage au président Bush père. Et qu'est-ce que cela signifie dans le contexte politique américain d'aujourd'hui?
C'est la tradition américaine que malgré les disputes, les difficultés politiques, les désaccords politiques. Finalement, nous sommes une nation. Nous suivons la même constitution et finalement, nous sommes ensemble à promouvoir la démocratie et les...
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La justice française a autorisé l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Le frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Bagassikoura.
La Cour d'appel de Paris a donné son feu vert à cette extradition à laquelle le parquet général s'était déclaré favorable. Quelques heures après cette décision, la défense de Compaoré s'est pourvue en cassation. Pour être effective en France, une extradition doit aussi faire l'objet d'un décret gouvernemental. Âgé de 64 ans, François Compaoré avait été arrêté à l'aéroport parisien Roissy-Charles de Gaulle en octobre 2017 sur la base d'un mandat d'arrêt émis le 5 mai 2017 par les autorités de Ouagadougou. À ce jour, il n'est pas inculpé dans son pays dans cette affaire. Alors qu'il enquêtait à l'époque sur la disparition suspecte de David Ouedraogo, chauffeur de François Compaoré, le journaliste Norbert Zongo et trois personnes qui l'accompagnaient avaient été retrouvés morts calcinés dans leur véhicule le 13 décembre 1998 à Sapui, dans le sud du Burkina Faso.
La justice nigérienne a relaxé un acteur de la société civile emprisonné depuis avril à Zinder après une manifestation contre la loi des finances, a annoncé son organisation. Aucune charge n'a été retenue contre Yahya Badamassi, a indiqué Alternative Espace Citoyen. Les églises évangélistes, presbytériennes et méthodistes du Togo ont appelé à un report des législatives prévues le 20 décembre, boycottées par l'opposition. Dans une déclaration commune, les églises éveillées dénoncent les conditions non consensuelles dans lesquelles est organisé le scrutin et réclament un report de quelques mois qui permettrait d'approfondir le dialogue. Un nouveau foyer d'Ebola a été signalé dans la région de Beni, dans l'est de la RDC, touché par une épidémie de cette fièvre hémorragique qui a déjà fait 268 morts, selon le ministère de la Santé. Nani Talani.
Selon le ministère de la Santé, le nouveau foyer d'Ebola a été rapporté dans un village de la zone de santé de Komanda, à environ 100 km au nord de Beni. 8 nouveaux décès de cas confirmés ont été enregistrés, dont 3 à Komanda, faisant passer le nombre total des morts de 260 à 268 en un jour. Ce foyer de Komanda est lié à un cas confirmé décédé au centre de traitement d'Ebola de Beni la semaine dernière. Lundi, Une équipe de vaccination y a été dépêchée et a commencé la vaccination de la famille et des ménages voisins. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 1er août dernier, le cumul des cas est de 453, dont 405 confirmés et 48 probables selon ce nouveau bilan officiel. La RDC est touchée pour la 10e fois depuis 1976 par une épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans les provinces troublées du Nord Kivu dans l'Est et de l'Ituri dans le Nord-Est.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
Les producteurs de cacao pourront percevoir un prix plus élevé pour leurs produits aux conditions du label de certification Fairtrade International, indique cette organisation. Fairtrade a en effet décidé d'augmenter de 20% son prix minimum pour le cacao, le faisant passer de 2000 à 2400 dollars par tonne. Quant à la prime touchée par les producteurs pour financer les projets communautaires, elle passera de 200 à 240 dollars. Ces nouveaux prix entreront en vigueur le 1er octobre 2019. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a autorisé la ratification de la convention de concession révisée pour l'exploitation des transports ferroviaires entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et la Société internationale de transport africain Parail, Citarail. Pour le gouvernement burkinabé, il s'agit de faire en sorte que le chemin de fer soit préservé et de réduire la durée des trajets de voyage. Mais les opposants accusent l'entreprise Bolloré de ne pas garantir les conditions équitables de travail en faveur des travailleurs burkinabés. Terminons avec la production mondiale de coton pour la campagne 2017-2018 qui est de 25 millions de tonnes. Le Mali est redevenu en 2017-2018 le premier producteur de coton africain avec une production de 700 000 tonnes. Au plan international, l'Inde, la Chine, les États-Unis, le Pakistan et le Brésil constituent les cinq premiers producteurs. Les États-Unis sont pour leur part les premiers exportateurs mondiaux de fibres.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
En football africain, la saga continue avec l'Égypte qui dit non à l'organisation de la CAN 2019.
Oui, la Fédération égyptienne de football rejette l'idée d'habiter la CAN 2019 après la décision de la CAF d'écarter le Cameroun de l'organisation de cette compétition. L'Égypte indique qu'elle refuse de concurrencer un autre pays arabe sans citer de nom. La CAF devrait faire un choix sur le nouveau organisateur de la CAN 2019 et les médias citent régulièrement le Maroc et l'Afrique du Sud. Pour l'instant, le royaume chérifien, qui a renouvelé ses infrastructures sportives en prévision de sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2026, ne s'est pas proposé officiellement pour abriter cette compétition.
La Fédération ivoirienne de football, elle, dénonce les déclarations du président de la CAF.
Aucune autorité étatique ivoirienne ni aucun dirigeant de la fédération n'a été contacté ou approché par la CAF, a écrit la FIFA dans un communiqué. Le président de la CAF a annoncé lundi un décalage dans l'organisation des CAN, déclarant que la Côte d'Ivoire ne serait pas prête pour celle de 2021. En 2014, la CAF, alors présidée par Issa Hayatou, avait attribué les trois CAN qui viennent, 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée.
En Europe, Riyad Mahrez et City gardent le rythme en Première Ligue.
Et oui, avec un but et une passe décisive, l'Algérien a permis à Manchester City d'enchaîner un septième succès consécutif en championnat face à Watford, 2-1. Dans les autres rencontres de la 15e journée, West Ham s'est offert Cardiff City 3-1, tandis que la surprenante équipe de Bournemouth continue de jouer les troubles faits après son succès face à Huddersfield, 2-1. Brighton n'a fait qu'une bouchée de Crystal Palace, 3-1.
Cette 15e journée se poursuit ce soir.
Liverpool affronte Burnley et les Reds vont devoir se passer de Sadio Mané. L'ailier sénégalais souffre d'une terrible coupure à un pied, d'après son entraîneur Jürgen Klopp, qui a plaisanté à son sujet hier en conférence de presse. Je cite, « Il a dû être recousu, il va bien mais marche avec des tongs et on ne joue pas en tongs. Cela signifie qu'actuellement il n'est pas disponible mais nous verrons plus tard », a indiqué le technicien allemand. De son côté, Tottenham reçoit Southampton à Wembley, mais tous les regards sont tournés vers Old Trafford où Arsenal, en grande forme après 19 matchs de rang sans défaite, peut enfoncer Manchester United en plein marasme.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Le président gabonais Ali Bongo, hospitalisé depuis près de 2 mois, se porte plutôt bien, a déclaré le Premier ministre après l'avoir rencontré hier à Rabat, où il est en convalescence. Mais pour Auguste Essonneau, professeur de sciences politiques, il s'agirait d'une manœuvre des autorités, alors que de nombreux Gabonais se questionnent sur l'état de santé de leur président dans l'espoir d'en savoir plus. Le professeur est joint à Libreville par Irénée Herman Ongbo.
Le peuple pense qu'on ne lui dit pas la vérité. Le peuple pense qu'il y a une machine qui est mise en place pour organiser un énorme mensonge d'État depuis le 24 octobre, pour cette simple raison. La parole du Premier ministre ne peut pas avoir un écho favorable au sein des populations, de mon point de vue.
À quoi alors s'attendent les Gabonais? N'est-ce pas des informations concernant l'état de santé de leur président?
Les Gabonais attendent la vérité, mais lorsqu'un peuple a le sentiment qu'on ne lui dit pas la vérité, bien évidemment, ce qui passe pour être un mensonge d'État ne peut pas apaiser les inquiétudes, puisque le peuple est convaincu qu'on lui ment.
Mais à votre avis, quel intérêt est-ce que les autorités gabonaises ont à créer un flou autour de l'état de santé du chef de l'État?
Les autorités gabonaises veulent conserver le pouvoir, parce que au sein de la majorité, l'on reste à peu près persuadé que si une transition est organisée, ça veut dire sur fond, après avoir constaté si tel était le cas, la vacance de pouvoir, si ce que consigne, ce que demande la Constitution est respecté, la présidente du Sénat sera installée comme présidente par intérim de la République, elle organisera les élections et la majorité étant persuadée qu'elle n'est pas en mesure de gagner cette élection, et puisqu'elle veut conserver le pouvoir, alors elle fait tout pour gagner du temps afin de mettre en place des mécanismes qui vont l'aider, n'est-ce pas, à tricher, à faire semblant d'organiser une transition, tout en tirant les ficelles de sorte à ce que le pouvoir soit conservé.
À vous entendre, vous ne croyez pas aux propos du Premier ministre, c'est bien cela?
Je suis un citoyen de ce pays, avant d'être un ancien chercheur. En tant que citoyen, je pense que le Premier ministre a menti. Qu'est-ce qui me le fait dire? Lorsqu'on regarde les photographies et les vidéos qui sont diffusées depuis à peu près 2 à 3 jours, n'est-ce pas, il n'y a pas besoin d'être un expert pour se rendre compte de la grossièreté de ces montages et pour se rendre compte justement de la manipulation qu'il y a derrière. Les images ne sont pas nettes, les images manquent d'authenticité, cruellement d'authenticité. Pas besoin d'être un expert pour le dire. À partir de ce moment, je ne peux pas accorder foi en tant que citoyen de ce pays à ce qu'affirme le Premier ministre.
Le professeur Auguste Essonneau était joint à Libreville.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Comment améliorer la gestion des espaces terrestres frontaliers burkinabés dans un contexte de conflits récurrents entre habitants de ces zones et la montée du djihadisme? La question est au centre d'une étude commanditée par la Commission nationale des frontières. Plus de détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Cette étude est menée par le programme d'appui à la gestion des frontières. Elle va être bénéfique à plusieurs titres au Burkina Faso, se réjouit le ministre en charge de l'administration du territoire, Siméon Sawadogo.
Aujourd'hui, cette étude va nous permettre d'avoir un certain nombre d'éléments sur la démarcation et la délimitation de nos frontières de façon générale, de voir également comment les ressources naturelles partagées au niveau de ces frontières-là sont gérées avec les populations riveraines des différents pays concernés, et de voir également comment s'opère la migration des populations, sans oublier la coopération transfrontalière.
Edmond Souguet a conduit l'étude en procédure de validation. Il revient sur le travail qui a été fait.
On a voulu ressortir les principaux éléments juridiques sur la gestion des frontières au Burkina Faso. Nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de textes qui existent qui ne sont pas connus au niveau local, qu'il y a beaucoup de pratiques qui existent qui ne sont pas prises en compte dans les textes. Il y a beaucoup d'expériences de coopération transfrontalière, de commerce, de gestion des ressources naturelles, de l'eau, de la transhumance et tout. tout, ne sont pas prises en compte. On a ressorti des difficultés. Maintenant, nous faisons des recommandations pour pouvoir améliorer.
La position géographique du Burkina Faso est un facteur de risque en termes de sécurité, avec des frontières peu contrôlées qui offrent aux terroristes des espaces où ils peuvent agir en toute impunité en se mêlant aux populations. Les forces de sécurité sont confrontées à des situations délicates, témoigne un des participants à l'atelier de validation, le lieutenant-colonel de gendarmerie, Kanou Koulibaly.
Il y a souvent des situations qui se posent. On se demande quelles mesures il faut prendre. Quelqu'un qui arrive, qui a des papiers, rien n'est très clair dans ces documents. On est obligé de maintenir la personne alors qu'elle n'a rien à voir avec ces histoires d'insécurité.
Sans texte actualisé, difficile d'être efficace de l'avis d'Augustin Tankwano, maire de la commune du Diapaga.
Je suis de la Tapoua, donc la zone de l'Est. Vous voyez toutes les difficultés que nous avons, mêlées à toutes les agressions externes d'un paysage où le dispositif juridique n'est pas totalement très clair et ça ne permet pas donc souvent d'agir. En attendant, nous sommes tout le temps en concertation avec les autres présidents des collectivités des pays voisins, mais tout le monde est en alerte permanente pour non seulement tranquilliser ses frontières et tranquilliser aussi nos populations.
Cette nouvelle donne sécuritaire a aussi été épluchée dans le cadre de l'étude foi du responsable des experts Edmond Sougué.
On a pris en compte le volet sécurité, mais il y a des limites parce qu'on n'a pas eu accès à beaucoup d'informations, mais on a traité le volet sécurité en matière de texte existant et en matière d'éléments d'expérience pratique existants. Et maintenant, le challenge, c'est comment faire en sorte que les textes puissent favoriser plus la sécurisation des zones frontalières.
Pays enclavé, partageant plus de 6500 km de frontières terrestres avec 6 États voisins, le Burkina Faso se tient ainsi prêt à répondre aux enjeux actuels de gestion des espaces frontaliers marqués par la résurgence des conflits communautaires et surtout la menace terroriste et djihadiste. Issa Napouagadougou, VOA Afrique.
Des femmes qui visitent régulièrement la prison civile de Lomé au Togo se plaignent du traitement qu'il aurait réservé. Elles disent ne plus supporter des fouilles allant jusque dans leur partie intime et parlent d'humiliation. L'administration pénitentiaire, quant à elle, se veut rassurante, indiquant qu'elle a été contrainte d'adopter ces nouvelles mesures. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Depuis quelques jours, les femmes qui visitent la prison civile de Lomé sont exposées à des fouilles systématiques allant jusqu'à des attouchements sexuels. La pratique semble être simple. On demande à ces femmes de se mettre totalement nues afin de procéder à ces fouilles qui comportent des doigtés. Une pratique que dénoncent ces femmes rencontrées à la prison civile de Lomé.
En fait, dimanche, j'étais partie à la visite pour rencontrer un parent. Mais au niveau de la fouille des femmes, on nous a demandé de nous mettre nues, d'enlever totalement nos habits jusqu'au soutien-gorge, au slip. Et les surveillantes pénitentiaires nous ont touchées. J'ai senti une grande humiliation. Je n'ai pas arrêté de verser des larmes parce que je me suis sentie vraiment humiliée.
Kimi visita.
Lorsque nous sommes venus à la visite, nous n'imaginons pas que c'était aussi grave. Le premier jour, on m'a fait le doigté. Les agents femmes qui font la fouille portent des gants, mais ce sont les mêmes gants qui sont utilisés pour toutes les visiteuses. Je suis écœurée. Venir et se mettre totalement nue, nous ne sommes pas à l'hôpital. Même si les fouilles ont été allégées dans la journée du mardi 4 décembre, le régisseur de la prison civile de Lomé explique les raisons qui ont poussé l'administration pénitentiaire à avoir recours à ces mesures draconiennes. Gma Kanini Kabo, régisseur de la maison d'arrêt de Lomé.
On est souvent surpris de voir des objets que les femmes se permettent d'introduire dans leur appareil génital. Mais la dernière fois, il y a encore eu un cas où la personne a réussi à franchir la porte. Et c'est dans la transmission de l'objet dans le parloir qu'on s'est rendu compte. Un emballage bien filé de cannabis. Cela suppose que ceux qui étaient à la fouille là n'ont pas bien fait leur travail. On a accusé ces éléments de laxisme dans leur service qu'on a été obligé de faire cette fouille systématique.
Pour cette défenseure des droits de la femme, aucune raison ne peut justifier ces pratiques qui dénigrent la femme et portent atteinte à sa dignité. Michel Agué, secrétaire général du groupe de réflexion Femmes, Démocratie et Développement GF2D.
C'est un choc. Rien ne peut justifier le fait qu'on puisse faire ce genre de contrôle, toucher les parties intimes des femmes, aller jusqu'à l'intérieur de leur intimité pour des questions de sécurité. Il y a d'autres moyens de détecter les les substances frauduleuses, les substances toxiques. Il y a d'autres moyens qu'on peut mettre au sein de ces unités pour pouvoir assurer la sécurité au sein de la prison que de bafouer ainsi la dignité de la femme.
En croit le régisseur, des tractations sont en cours pour équiper la maison d'arrêt de Lomé de matériel de détection de produits interdits. Nous retrouvons Gmakane Nikabou.
Il faut un équipement adéquat pour éviter tout cela. Nous savons que ça se fait dans les aéroports, même dans les hôtels. On a des équipements nécessaires. On n'a pas besoin même de vous déshabiller. On a tout ce que vous avez sur vous. Il suffit de doter ces éléments de ces équipements. Le problème est résolu.
Kailson, Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Direction l'univers des médias sociaux, notamment en Ouganda, où Ask Without Shame, une application mobile gratuite avec service SMS, fournit une éducation sexuelle aux jeunes et aux moins jeunes. L'application offre une plateforme permettant de poser de manière anonyme toutes les questions essentielles sans crainte ni honte et d'obtenir des informations précieuses. Dilidico nous en dit plus.
Aujourd'hui, c'est jour de lessive pour Promise, une jeune femme ougandaise de Kampala. Pendant que son linge sèche au soleil, elle s'active sur son téléphone. Mais elle n'est ni occupée à regarder des photos sur Instagram, ni en train de se mettre au courant des derniers potins de la capitale. Ce moment de répit, elle l'utilise plutôt pour se rendre sur Ask Without Shame, une application mobile de santé sexuelle.
Vous savez, de nos jours, nous les jeunes craignons d'aller dans les centres pour jeunes adultes car il faut payer la visite. Et comment puis-je leur dire que j'ai une infection urinaire ou des pertes anormales ou que j'ai eu un rapport non protégé? Mais avec cette application et l'accès à l'internet mobile, que vous soyez dans un taxi, chez vous en train de faire la cuisine ou laver le linge, vous pouvez utiliser l'application.
Après avoir perdu ses parents et sa sœur décédée du sida, Ruth Nabembezi a décidé à 23 ans de créer Ask Without Shame, une plateforme anonyme et gratuite où les utilisateurs peuvent poser des questions sur leur santé sexuelle. Les membres de l'équipe, des experts en médecine et conseillers, envoient également des messages aux abonnés via WhatsApp et une application Android.
Les réactions à cette application sont fantastiques. Nous ne sommes qu'une petite équipe de 8 personnes, 8 infirmiers répondant à ces questions quotidiennement.
Ruth a lancé cette plateforme, comprenant également un centre d'appel gratuit, en 2015. Elle se dit surprise par le nombre d'utilisateurs et leur localisation géographique.
Nous avons un total de 80 000 utilisateurs sur l'ensemble de la plateforme et plus de 8 000 téléchargements pour l'application. Nos utilisateurs sont partout dans le monde entier. Ils sont nombreux aux États-Unis et la plupart d'entre eux sont en Inde et bien sûr en Ouganda. C'est donc un problème à l'échelle mondiale, pas seulement un problème ougandais.
Les concepteurs de l'application Ask Without Shame se proposent d'atteindre plus d'un million de jeunes en Afrique de l'Est. L'équipe utilise les questions posées par les utilisateurs pour organiser des formations à l'intention des responsables de la santé ainsi que des campagnes de sensibilisation dans les zones rurales.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Joselle Morissin. À la console, Nelson Lopez. À la présentation, Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wenpanga, Wayeguya Burkina Faso
et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Et tout